Eh bien, bonjour à tous. Dans l'émission Micro ouvert sur Fréquence Mistral, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Discala. Bonjour.
Bonjour.
Tu es musicien.
Oui, musicien. Enfin, après, c'est un peu léger, musicien. Enfin, j'essaie d'être musicien, déjà, parce que c'est très vaste. En passant par la lutherie, mon instrument, c'est la guitare. Là, ça fait plus de 25 ans que je joue maintenant. Et puis, j'essaie d'être guitariste aussi.
Oui, donc sur Fréquence Mistral, nous allons un petit peu faire connaissance ensemble avec nos auditeurs. Tu es venu avec une de tes guitares, une de tes créations. Il y a de jolies ouïes.
On dit DF.
DF.
Ouais, ça n'existe pas en fait.
Les ouïes, c'est même pas pour le violon, c'est F.
Oui, en lutherie, voilà. Enfin bon, après c'est des petits termes, un peu de vocabulaire, tout ça. Donc, je suis venu avec une de mes guitares que j'ai fabriquée. Enfin, moi, je reste dans la guitare de jazz traditionnelle, la archtop, ce qu'on appelle la jazz américaine, avec les F. Et en table et fond sculpté, érable, épicéa, rablondé, enfin les bois de lutherie classique, ce qu'on utilise pour les violons.
Tu mets des F sur tes essences.
Voilà, des feux.
Donc tu joues du jazz ou tu essaies de jouer du jazz comme tu le dis si bien. Dernièrement, tu étais pour la fête de la musique à Digne. Tu étais avec une accompagnatrice.
Ouais.
Voilà. Tu as changé en cours de route, tu as changé de musicien qui t'accompagne?
Oui, récemment, enfin, on cherche un petit peu des combinaisons de musiciens entre percus, guitare, quel type de guitare utiliser, sachant que à chaque fois c'est un son différent, et même en fonction, ça va jusqu'aux limites, si on utilise et si on joue au Mediator, les matériaux sont importants, donc il faut bien imaginer que les cordes, le type de guitare utilisée, si c'est une manouche, si c'est une acoustique folk, si c'est une classique en corde nylon, c'est pas du tout la même approche, le même son et du coup le même résultat, quoi. Il va manquer forcément des basses si c'est une manouche. Donc vu qu'il n'y a pas de bassiste, à ce moment-là il faut penser peut-être prendre une folk américaine. Les basses sont assez importantes dessus. Enfin, tout dépend des modèles. Et puis bon, après, il faut voir aussi les musiciens. Ce qui est quand même assez important. Pour faire un petit peu parler l'instrument, il faut le musicien derrière.
Et quels sont tes critères pour les musiciens ?
Critères, investissement, déjà.
Travail ?
Oui, un peu, un minimum, quoi. Il faut un peu bosser. Il y a des gens doués, c'est pas suffisant. Hein. Enfin, le don, si ça se travaille pas, il n'y a rien.
Même les musiciens les plus accomplis travaillent au quotidien, et même en s'amusant, ils continuent à jouer.
Oui. Après, bon, c'est un travail d'une vie. Enfin, on apprend tous les jours, on apprend tout le temps. C'est remis en question. C'est même si on donne des cours, on peut prendre aussi soi-même des cours de temps en temps, faire des stages, voir une autre approche, une autre manière de jouer, avoir un jeu différent, écouter d'autres instruments aussi. Parce qu'un guitariste qui écoute un autre guitariste, il va prendre les partoches, limite même peut-être les tablatures pour voir exactement comment c'est joué, avec un système de numérotation sur les cases. Bon, peut-être qu'il y a des auditeurs guitaristes qui nous écoutent, donc ils comprennent un petit peu les transcriptions qui sont possibles de trouver à l'heure actuelle. Donc on voit même la manière de jouer qui est écrite sur des bouquins. Donc ça, c'est très très bien. Après, ce qu'il en est, peut-être aussi, peut-être pour progresser, c'est entendre autre chose, transcrire du violon en guitare. Là, il n'y a pas de tablature, donc là, c'est encore un autre boulot. Et vu que ce n'est pas du tout la même approche au niveau des gammes, des arpèges, des suites, tout ça, peuvent donner de bons résultats d'un instrument à l'autre pour la même partition.
La musique, tu l'as apprise ?
Oui. J'ai fait l'IMFP, je ne sais même plus en quelle année, je crois que c'était en 96, il me semble, 95-96 ou 96-97, je ne sais plus. Oui, j'ai appris la musique, ouais. Basé sur le jazz, bon, à l'époque j'étais peut-être un peu jeune, je n'étais pas branché par le jazz plus que ça, je ne voyais pas trop l'intérêt, je voyais beaucoup de barrières, de règles, de musique. Mais j'avais pas trop envie de les apprendre. Donc je passais, je faisais un peu semblant. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que quand même, ça avait son intérêt et son importance, quoi.
Et tu écoutais quoi, hein, autre que le musique jazz que tu survolais ?
Ah, j'écoutais du hard rock, monsieur.
Ah, monsieur écoutait du hard rock.
Eh oui. Alors dans l'hard rock, c'est bien parce que tout est permis, on peut faire crier les guitares, on peut. Donc c'est intéressant et tout. Après, il y a des quand même. Bon, j'ai changé un petit peu de. Mon oreille a évolué, heureusement, merci pour ceux qui m'ont aidé un peu à la brouiller. Mais il y a quand même de choses très intéressantes à entendre dans ce type de musique parce que c'est quand même des musiciens qui n'ont pas peur du son. Qui se pose pas de barrière, donc déjà ça joue, c'est saturé, on aime ou on n'aime pas. Il y a des trucs que j'aime pas du tout. En revanche, il y a des choses qui sont très très harmoniques, c'est très très bien placé, c'est très joli, accessible aussi. Bon, après j'ai en tête là en me disant ça, je vois quelques noms plus ou moins auxquels je pense. Je sais pas, enfin bon, des Marty Friedman qui sont des guitaristes absolument enfin géniaux, quel que soit le style, ils ont un type de jeu qui est énorme quoi. C'est je sais pas, des voilà, alors Marty Friedman dans ce genre là Steve Vai évidemment, pour ceux qui écoutent vraiment enfin du tout ce qui est hard rock et tout, c'est des grands musiciens quoi quand même. C'est des monstres.
Mais plus dans le heavy avec Steve Vai.
Heavy, je sais pas trop comment on pourrait placer Steve Vai. Steve Vai, je sais pas. Je le vois pas trop dans le blues.
Plus tendance Satriani.
Satriani, je trouve ça assez blues hein, au niveau des gammes qu'il utilise. Il est pas trop. Enfin, dans d'autres modes, j'ai envie de dire que tout ce qui est. Il joue beaucoup en mixolydien. Il a quelques morceaux en lydien. Il est beaucoup en mode dorien, pentatonique blues aussi, notamment penta mineur. Mais il a pas ce genre de couleur du tout qui fait un peu pont entre la musique orientale, la musique flamenco. Ça se rejoint un petit peu aussi au niveau des sonorités, ce genre de ces deux cultures différentes, mais Il y a quelque chose de cohérent entre les deux. Il y a des artistes qui ont fait... Bon, je fais un pont, hein, je vais vite, mais... Il y a des artistes qui ont un petit peu essayé de faire des recherches carrément sur ce genre de musique. Je pense à Anushka Shankar, avec... je pense que c'est son dernier album, qui date d'il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça, où elle a mélangé, elle a mixé complètement la culture... espagnol, flamenca, avec la musique traditionnelle indienne, et c'est très très bien fait, c'est très intelligent, et les gammes fonctionnent, il y a quelque chose de cohérent, et au niveau du rythme, de la manière de compter, tout comme dans l'harmonie, moi ça, je trouve ça génial comme boulot.
Et Gitan, de par leur itinéraire, viennent un petit peu de l'Inde aussi, quelque part.
Il y a aussi, ça aussi, ouais. Donc ça, c'est, c'est dans l'histoire un petit peu de l'évolution de la musique. Il y a des gens qui ont fait des voyages, qui ont ramené des choses. Et là, on retrouve ce genre de sonorité. Donc pour en revenir à Steve Vai, il utilise des gammes, des fois, qui sont très intéressantes. Il est dans les modes. En même temps, je trouve ça assez rond chez Steve Vai. Bon, ça, c'est un terme de musicien, rond. Comment dire ?
Qui veut dire, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Il y a des rondeurs, dans son jeu, il y a des courbes, c'est élégant, c'est souple. Et en même temps, c'est très technique et ça reste quand même à l'oreille très accessible, même à des gens qui ne jouent pas de la guitare. Quoi.
On n'attrape pas de torticolis en écoutant Steve Vai ?
Pas, jamais essayé. Mais non, moi je ne pense pas. Moi, c'est plutôt fauteuil, casque éventuellement, une bonne écoute et je me pose et oui, voilà. Là, il y a quelque chose qui se passe, il y a des tas de trucs à entendre derrière, c'est bien fait. C'est bien écrit, c'est bien fait. Bon, après, des guitaristes, il y en a plein. Et puis, ils sont tous les meilleurs dans leur style à eux, quoi. C'est pas un concours non plus, c'est... Voilà, c'est rendre la musique accessible. Je trouve que ça, c'est faire en sorte que les gens puissent comprendre un petit peu... Et que ce soit pas fermé complètement, que ce soit pas un test psychologique, faut avoir le bac pour écouter ça, ou faut être musicien pour écouter ça. Bon, il y a des trucs qui ressortent, qui sont quand même très intéressants et très accessibles en même temps, je trouve.
Faut être un minimum initié pour aller un petit peu au cœur. Quelquefois, c'est un peu complexe comme musique. Je parle pas du ressenti, mais je parle de la compréhension, un petit peu. Il y en a qui cherchent à comprendre, il y en a qui cherchent à apprécier, quoi.
Ouais.
Pour la compréhension, il y en a qui disent c'est un brouhaha, j'arrive pas à avoir la clé pour entrer dedans. Le jazz, quelquefois, c'est ça. Alors que l'approche est peut-être plus fine, en étant initié par quelqu'un qui les amène, bien entendu, en commençant petit à petit. Ça peut amener ça. Il y a une histoire, ça vient avant ça, et non pas l'inverse.
Ah, il y a une chronologie, il y a quelque chose, oui, je pense qu'il y a ça à prendre en compte aussi. C'est le jazz, brouhaha. Moi, je dirais pas un brouhaha du tout. Hein. Attention à ce que je vais dire, je vais me faire taper sur les doigts après par les auditeurs. Mais
pas forcément brouhaha, une nébuleuse, voilà. C'est plus nébuleux, dans le sens comme ça.
Ouais, moi je pense pas trop à comment je les mots me manquent. La musique, c'est plus facile. Hein. Moi, je dirais plus, on partirait sur une musique qui est un petit peu compliquée à écouter parce que on part avec des a priori de soi-disant musique élitiste. Entre parenthèses pour le, enfin quand même pour le jazz, j'ai souvent entendu ça. Ça peut paraître compliqué parce que parce qu'il y a ces fameux jeux out où on s'amuse un peu à tordre les tonalités, les gammes, on part à côté pour mieux y revenir. Bon, ça, effectivement, pour s'amuser à faire ce genre de jeu, il faut quand même bien connaître ses notes, ses gammes, ses arpèges, avoir des habitudes, moi, je dirais visuelles sur ce qu'on fait sur un manche de guitare. Bon, ça peut être aussi des habitudes de gestuelles sur... sur une trompette ou des trucs comme ça, mais c'est pas si compliqué que ça finalement. Écoutez, il y a un rapport qui est quand même assez, il y a toujours une logique derrière, c'est réglé, ouais, c'est géré par des règles, tout écrites, et justement le principe c'est comme toute règle qu'on connaît, ben, à partir du moment où on la connaît, on peut commencer à s'amuser avec, voire de la transgresser.
Voilà, puis il y a une grosse nuance entre l'harmonie et la mélodie. Il y en a beaucoup qui jouent sur la mélodie. Ça, ça s'adresse un petit peu à beaucoup de gens. Quand ça, les musiciens commencent à jouer sur l'harmonie, ça peut être beaucoup plus abstrait, plus dissonant quelque part.
Ben, dissonant. Alors voilà, dissonant, oui, mais pas faux.
J'ai pas dit faux.
Non, c'est voilà, c'est deux choses bien différentes. La notion de faux, au bout d'un moment... ça peut plus exister. Faux, c'est quoi? C'est un a priori par rapport à... si on a envie que ça sonne, que ça casse le truc, que ça sonne bizarre, entre guillemets, bah, pourquoi pas?
On fait ce qu'on veut. On peut avoir une oreille mal accordée aussi.
Oui, alors voilà, si on fait exprès, c'est bien. Si on fait pas exprès, qu'on n'entend pas. Là, oui, c'est un petit peu plus... ouais, ça pose un peu problème, ouais.
Et pour les guitaristes, oui, donc... Tu parles de transposition de partition de violon pour guitare. Ça peut se faire pour une trompette, ça peut se faire pour d'autres instruments. C'est compliqué à appliquer?
Non, pas forcément. Enfin, on peut le faire de plein de manières différentes. On peut prendre un reel book, suivre le thème, essayer de comprendre l'harmonie parce que les accords sont notés et tout ça. Bon, ben voilà, on fait un peu une petite analyse de grille. C'est pas très compliqué, c'est vite fait. Où ça s'apprend assez facilement aussi. Voilà, on peut s'amuser. Et après, par-delà, de toute manière, une grille jazz, ça prend une page. Entre l'écriture de la grille et le thème, il y a une page. Tout ce qu'il y a autour, c'est de l'impro par rapport à la compréhension de cette page-là. On peut se permettre de partir là-dessus. Et puis, il y a l'écoute. Je veux dire, on n'invente pas non plus forcément tout le temps la musique. Ça vient toujours de quelque part, donc autant se servir de ses oreilles, ça leur fait du bien, on entend de belles choses quand même. À ce moment-là, on peut travailler aussi à l'oreille, au feeling. Là, ça affûte un peu l'oreille aussi, c'est intéressant comme travail de relever juste par rapport à l'oreille tout ce qu'on entend. Bon, des fois, c'est un travail qui est compliqué suivant... suivant le travail qui a été fait à l'origine par l'artiste et son titre, mais c'est faisable, c'est très, vachement bien. Moi, j'aime bien faire ça, quoi. Enfin, je m'y retrouve. Puis on entend ce qui doit sonner, ce qui doit pas sonner. On entend la façon, la manière, la respiration. C'est là, c'est du vivant.
Tout à l'heure, tu parlais de musiciens qui jouent du hard rock, Steve Vai, et ainsi de suite.
Oui.
entre une guitare qui peut être électroacoustique ou acoustique par rapport à une guitare qui est amplifiée, distorsion, ce qu'on veut, quoi. Mm-hmm. Le jeu de la guitare, il est radicalement différent. Ou un musicien de hard rock, bon, il y a Yngwie Malmsteen qui essayait de faire du néo-classique. C'était un petit peu spécial comme musique, quoi. Mais il avait essayé de mélanger les deux, mais il continue de jouer, hein. C'est pas ce que je veux dire. Il est toujours là, quoi. Mais c'était un peu bizarre, c'était là au milieu des années 80, ce style de musique.
Ça, c'était très 80, 90, ouais. Bon, c'est un peu peut-être. Ça fait peut-être un retour dans deuxième moitié des années 70 avec Eddie Van Halen quand même, quand il reprenait. Son fameux solo éruption, bon, qui serait aujourd'hui quelque chose qu'on appellerait du shred à bloc, c'est-à-dire en gros on mouline au médiator à bloc, et puis voilà, il y a du tapping, mais il y a des bases classiques qu'on retrouve, et c'est assez joli. C'est des petits plans d'arpèges, de suites d'arpèges, de montées
qui ont été initiés par Satriani.
Non, mais je savais pas. Ah. Tiens, ça alors, bah, pas mal. Comme quoi, j'ai bien fait de venir, merci. Non, mais c'est... il y a un peu ce début. Il y avait aussi, je me rappelle un peu, là, des groupes des années 80. Il y avait Europe, là, aussi, avec The Final Countdown. Alors, je crois bien, si je dis pas de bêtises, je peux en dire à la radio.
Ouais. Ah, t'es autorisé, sans problème.
Allez, je peux me tromper. Hey, j'ai pas de PC devant moi, j'ai pas de bouquin, je fais rien.
On va essayer de faire travailler nos têtes.
Alors. De tête. Dans Europe, il me semble bien qu'il y avait un guitariste qui s'appelait John Norum.
Oui.
Et le solo de Final Countdown, c'est des suites d'arpèges classiques, avec des arpèges majeurs, mineurs, il y a des diminuants en plein milieu, et puis voilà, c'est tout, c'est classique.
C'est un peu propre, surtout.
C'est un peu super nickel, quoi. Ce solo, je crois que je le connais encore. C'est très très bien construit, c'est juste ce qu'il faut. Bon, voilà, après, donc ça c'était un peu, voilà, le début du guitariste héros de hard rock, fin des années 70, début 80, ça envoyait de tous les côtés. Après, il y a eu Satriani qui est arrivé. Il y a eu des groupes émergents aussi là, à partir de 83, type Metallica, ils ont sorti leur premier album en 83 avec Kirk Hammett. Mais 6 mois avant, il y avait Dave Mustaine qui a monté son propre groupe de son côté, qui était un excellent soliste à l'époque. Qui a plus un jeu hard rock basé sur des gammes pentatoniques, très criard, tout ça, mais qui se partageait la tâche au niveau des solos dans le groupe qu'il a fondé juste après avec Marty Friedman. D'ailleurs, c'est pas Marty Friedman au début, il est arrivé bien après. Il s'appelle Megadeth. Voilà. Des trucs comme ça, ça c'est côté hard rock. Après, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même voilà, des gens qui ont un peu fait tourner les choses, qui ont créé quand même un style, qui ont ramené des influences, des gammes pentatoniques, 5 sons, c'est des gammes blues à la base, et avant que ça devienne des gammes blues, c'était des gammes africaines ou asiatiques. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est encore un genre de métissage. C'est parti dans un sens, avec du son saturé, très criard et tout. Mais pourquoi pas ? Peut-être que c'est une autre forme de jazz. Hein. Si on regarde la définition du jazz... Là, je vais m'en prendre plein la tête. Allô ? Non, ça va. Allez, je dis plus rien sur le jazz. Non,
ah, ceci, tu peux. Hein.
Non, mais voilà, je pense que le jazz élitiste, tel que pas mal de gens le voient, c'est un peu dommage. C'est simplement un métissage. Il faut un peu de connaissances, simplement, et c'est là que ça devient intéressant. Alors du coup, on dit connaissances, alors c'est prise de tête, c'est compliqué la musique. Non, c'est culturel, je veux dire, pour moi c'est très difficile de jouer par exemple de la musique indienne, traditionnelle, parce que les temps sont compliqués, c'est pas du tout la même manière de compter, c'est pas du tout les mêmes gammes, on peut les retrouver dans les modes un peu qu'on a et dans la culture européenne, mais faut faire un peu un calcul, tout ça. Par contre, si j'étais un petit Indien, je me mets à la musique et pour moi, c'est normal. Et j'arrive à jouer sur du 9 temps, sur des trucs bizarroïdes, sur du 11 temps, sur des trucs improbables ou faire des mesures asymétriques. Pourquoi pas ? Donc c'est simplement culturel. On n'est pas habitué, nous. Nous, en Europe, on fait 1, 2, 3, 4, et hop, et ça démarre.
Quand le temps fort est en faible.
Voilà. Donc c'est relativement simple, quoi. Je veux dire, bon, après, je vais très vite. Hein. Sûrement, beaucoup ne seront pas d'accord, mais c'est simplement un truc culturel, quoi. Je sais pas, qui pourrait mieux jouer de la musique indienne qu'un indien, qui pourrait mieux jouer du jazz manouche qu'un manouche, je sais pas.
Comme pour le blues, il n'y a pas que des noirs qui savent jouer le blues. Hein.
Non, c'est vrai, oui. Bah, y a Clapton aussi.
Entre autres, oui. Hein? Mayall, il y en a puis plein.
Puis il y a Jimi Hendrix. Ah non, c'est vrai, t'es noir. Oui, pas du blues.
Oui, puis il était un petit peu américain aussi.
Oui, oui, un peu, hein, ouais.
Un petit peu. Avec le plan en étant anglais, c'est plus compliqué. Avec le John Mayall qui l'a initié au blues, avec les Blues Breakers, ça c'est début des années 60, et les musiciens blancs du blues boom, ce qu'on appelait le blues boom du début des années 60, sont allés extirper de leur anonymat les musiciens noirs de blues pour la faire ressortir, la faire reconnaître, parce qu'ils étaient un petit peu tombés dans l'oubli.
Ben, je me souviens, là, il est sorti un film là, sur une partie de la vie de Jimi Hendrix, enfin, du moins de ses débuts. Je ne sais plus s'il est sorti il y a un an et demi ou deux ans, je ne sais plus trop. Je crois que c'est, le titre, c'est All By My Side, il me semble. Ça n'a pas été, ça a pas cartonné, enfin, je veux dire, par rapport à ce que lui représente dans la musique et dans l'évolution du rock. Je veux dire, c'est, voilà, c'est énorme. Et j'ai bien aimé... Je vais essayer de ne pas trop faire d'erreurs quand je cite, mais j'ai bien aimé, à un moment donné, il dit un truc qui m'a beaucoup touché, en fait. Enfin, on lui demande s'il est ce qu'il compte faire avec le blues. Et là, il répond, mais moi, je suis pas un guitariste de blues. Enfin, il répond quelque chose comme ça. Moi, je veux mettre des couleurs. J'ai bien aimé le vocabulaire, le mot couleur, que tout le monde comprend, qu'un petit enfant va comprendre, sur un dessin, la couleur, c'est la vie. Voilà, j'ai trouvé le truc, cette phrase-là, elle m'est restée, je trouve ça génial et bien placé en plein milieu. Non, lui, il voulait faire un peu une basse blues, mais avec plus de couleurs, se permettre un petit peu d'aller à côté. C'était pas du jazz, il y avait déjà du jazz à cette époque-là, depuis longtemps d'ailleurs. C'est autre chose, il y a je trouve ça intéressant, et c'est vrai que c'est un peu ce que je ressens quand je prends un truc d'Hendrix, que j'essaie de jouer un truc d'Hendrix. J'aime bien parce que justement, moi j'y vois des couleurs, quand même, quoi. Ça fait quand même pas mal d'années que j'enseigne la guitare. C'est le genre de mots qui me touchent, qui me percute un petit peu et qui fait le lien entre les yeux et l'oreille.
Ça revient souvent, le mot couleur, dans le langage des musiciens.
Oui, après, couleur, c'est quelque chose de...
Ça éveille l'essence des oreilles. Enfin, ça revient énormément, ouais, chez vous, quoi. Hein.
Voilà, et je trouve ça... Oui, alors, c'est un langage courant dans la musique, mais entendre ça dans un film où tout le monde, pas que des musiciens, vont entendre cette phrase-là... Je trouve ça rendre, voilà, encore une fois, le mot accessible. Ça rend les choses compréhensibles, faciles à entendre. Ah ouais, mais c'est un blues, mais il y a plus de couleurs. Ah, ça, c'est intéressant. Et du coup, voilà, sans être musicien, on peut arriver à comprendre. Bon, après, voilà, il y a des titres comme Red House. Oui, c'est du blues. Oui, effectivement, quoi. Mais quand il joue, je sais pas... The Wind Cries Mary ou des titres comme ça.
Little Wing.
Little Wing, oui, aussi. C'est une base un peu blues, oui. Y a moins de couleurs quand même que. Et puis c'est un guitariste aussi qui jouait souvent en mode majeur. Contrairement à cette époque où, par exemple, sur un accord majeur dans le blues et le rock, on peut se permettre de jouer une gamme mineure pour faire un chorus. Ça passe très bien et c'est ce que tout le monde envoyait la plupart du temps. Ça sonne un petit peu plus dynamique, agressif, c'est un petit peu plus percutant. Dans son jeu, il y a vraiment un travail d'accessibilité encore, de l'oreille. C'est-à-dire que c'est, ça sonne, c'est doux. C'est pas forcément tout le temps... c'est pas triste. C'est... Voilà, et quand je joue ce genre de truc, en fait, je me rends compte que les gammes pentatoniques, elles sont majeures, sur des accords majeurs. Et donc, c'est à contre-courant de cette époque-là, où tout le monde envoyait, allez, il fallait jouer, fallait... Ah non, là, c'est souple, c'est... Et voilà, encore, les mots de vocabulaire qui vont ressortir, c'est la rondeur, l'élégance, il y avait presque un petit peu de... C'est presque un peu enfantin, tellement c'est joli, en fait, avec ces couleurs, justement, qu'il met. Enfin, notamment dans ces morceaux-là, il y a quoi ? Il y a Castle Made of Sand. Et des titres comme ça, c'est voilà, pour moi, c'est arc-en-ciel, quoi. C'est génial. Encore.
Au début, je jouais beaucoup avec 12 cordes. Il a abandonné petit à petit, c'est dommage.
C'est autre chose.
Il est passé à autre chose, bien entendu. C'est dommage, ça a une sonorité particulière, la 12. Et dans les mains d'Hendrix, c'est encore plus foudroyant, quoi.
Ah ben oui, oui. En plus, enfin, il avait un peu le truc de jouer de la guitare comme il chantait, et inversement, ça faisait qu'un, quoi. Entre le chant, des fois, il reprenait le phrasé qui venait de chanter, il reprenait à la guitare ou en même temps pour s'accompagner au lieu de faire un accord, et hop, et il enchaînait sur l'accord pour justifier de la tonalité. Bon, enfin, vraiment, vraiment très très chouette, quoi. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'est encore des gens qui ont réellement marqué leur temps avec leur façon d'entendre et de communiquer leur musique, quoi. C'est énorme. Bon, après il y en a d'autres. Chaque type de musique a son icône. En tout cas, je parle pour la guitare. Bon, évidemment, il y a les autres instruments. Il y a les Charlie Parker, les Gillespie. Bon, mais c'est... Voilà. Et puis un peu ce... Il y a d'autres musiciens aussi qui m'ont beaucoup touché. Enfin, d'autres musiciens. D'autres guitaristes qui sont de très bons musiciens, mais c'est des guitaristes aussi. Puisque je suis guitariste, donc j'allais directement, la plupart du temps, chercher un petit peu chez d'autres guitaristes des idées, des phrases, tout ça. John McLaughlin, bon, évidemment, incontournable, avec, par exemple, son album Natural Element. Bon, c'est des trucs, c'est phénoménal. Ça, c'est de la guitare, ça s'est vu nulle part.
Moi, oui, il était avec Miles Davis, pour faire le parallèle avec Hendrix aussi, qui aurait dû jouer s'il avait vécu. Mais McLaughlin, il a quand même été un élève de Miles Davis.
Et, oui, énorme. Voilà, ça, c'est des vrais arc-en-ciel. C'est des gens, ils vont faire rayonner quelque chose. Pour d'autres guitaristes, pour d'autres musiciens, c'est très technique, c'est très complexe à écouter. Pour les gens qui ne le sont pas, qui ne sont pas musiciens... c'est un plaisir à écouter. Et c'est pas complexe, c'est pas intellectuel, forcément. Ça ressemble à de la musique indienne, il y a des tablas, il y a une sitar, il y a un bourdon derrière, il y a du violon qui reprend exactement le même phrasé en même temps que le guitariste, ça donne une sonorité. Ça, c'est de la vraie recherche. Et tout ça avec guitaristes anglais ou américains, avec des instruments européens, qu'on réadapte, on révise la façon de jouer, et ça peut donner quelque chose de fantastique. Pour moi, le jazz, il est là.
C'est même mélangé avec Carlos Santana, pour dire l'étendue de son talent. Quoi.
Alors, je me souviens plus où il avait un nom aussi, Carlos Santana.
Devadip.
Voilà, c'est ça, ouais. Bon, enfin, c'est rigolo, quoi. Enfin, c'est un jeu, un peu, c'est bon. Après, c'est un peu une recherche par rapport à ce qu'a lancé un petit peu les Beatles, donc tout ça, ça remonte, quoi, avec Ravi Shankar à l'époque, qui a réussi à introduire la musique traditionnelle et ses sonorités dans la musique anglaise, dans la musique européenne, dans la musique américaine. Enfin, c'est le Velvet l'a fait aussi sur l'album justement où il y avait Andy Warhol qui avait fait la pochette,
je sais plus. Avec la banane.
Voilà, c'est ça, celui-là, enfin, ce magnifique album, enfin, qui est parfait à tout point de vue, quoi, au niveau du son, au niveau de la production, au niveau comment il a été communiqué, la pochette, le dessin, c'est un objet d'art, c'est magnifique.
Bah, c'est figé, Nico,
oui, voilà, ouais.
Lou Reed, là il s'est retrouvé, le Velvet, c'est John Cale, c'est ça?
Oui, je crois, oui, j'ai pas trop, ouais. Enfin voilà, ça c'est des trucs qui ont, enfin bon, ça moi j'écoutais ça quand j'étais ado, je trouvais ça génial. Donc enfin, et c'est des trucs qui m'ont influencé, qui m'ont marqué, comme les Doors aussi. Je suis désolé, hein, ça casse pas des briques individuellement, mais c'est des super musiciens. C'était les mecs derrière, ils arrangeaient, ils étaient là et ils ont inventé des trucs. Où on a vu un guitariste qui pendant 5 minutes va faire un truc de... Ça veut rien dire. Seul, ça ne veut rien dire. Mais on n'aurait jamais pu faire autre chose pour ce morceau-là. Alors, je ne sais plus quel titre des Dorsets. Désaccorder une guitare, taper dessus comme il faisait, par exemple, sur le morceau de The End, qui est un morceau, il y a trois accords, quoi. Il y a trois accords, et ça sonne. Et le morceau, il est indémodable. Donc, voilà, c'est qu'il faut remercier là, les Beatles. Avant ça, il faudrait remercier qui, je sais pas, Robert Johnson.
Oui, on remonte plus dans le blues. Oui.
Voilà, enfin, c'est une évolution constante. Quand on a plus d'idées, eh ben un jour il arrivera quelqu'un et puis il va sortir quelque chose de nouveau et puis il aura même pas fait exprès peut-être et puis bah ça va lancer un nouveau mouvement. Le rock est mort, ouais, vive le rock. Et après, il y a autre chose.
Le rock.
Voilà.
Non, mais en plus, ce qui est bien dans la musique, c'est qu'il faut se laisser aller. Il ne faut pas toujours chercher à comprendre comme le font souvent beaucoup de gens. Il faut se laisser aller, se laisser embarquer.
C'est dur.
C'est dur, mais c'est une approche. Encore une fois, c'est...
Ah, ben, le lâcher prise.
Ah oui, il faut.
Mais c'est pas évident.
Il faut larguer des amarres. Ah, on n'est pas loin de la mer.
Alors, ça c'est le truc un peu psycho qui est. Je pense que chaque musicien le vit. Quand on est jeune, on est un peu crétin, on a envie de s'amuser, ça sonne très rapidement, on n'a pas trop de recul sur ce qu'on fait. Donc ça marche à tous les coups, les groupes de Jones. Et puis, avec un petit peu plus d'expérience, avec un petit peu plus de bouteilles, on est un petit peu plus exigeant et au bout d'un moment, on se dit « Ah ouais, mais non, ça, je peux pas sortir un truc comme ça, là, c'est pas possible. » Non, c'est pas assez bien. C'est pas... Et on perd la spontanéité du jeu, le lâcher-prise et tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à garder, à conserver. C'est un peu de naïveté au travers de son propre jeu. Et c'est très difficile. C'est prendre beaucoup, beaucoup de recul et se dire « Non, bah... »
Qu'est-ce que ça donnerait l'insouciance avec plus de technique?
Ah, c'est pas possible. Non. Je sais pas. Ce serait parfait. Ce serait un jeu spontané, improvisé et à la fois construit sur le moment. Ce serait assez compliqué quand même. Mais bon, enfin, c'est proche de l'improvisation. Mais après, voilà, c'est un truc, quoi.
Pour revenir à ce que tu recherches dans la guitare, puisque tu crées tes instruments, c'est d'avoir écouté des musiciens particuliers avec un... Bon, le solid body, c'est pas trop ton truc pour les guitares, mais c'est d'avoir écouté des musiciens. Oui,
oui. Ah, si, si.
Non, mais dans tes créations, je parle.
Hein. Ah non, les créations, non.
Non, non, vu que tu as écouté du hard rock, c'est comme ça, c'est rare, quoi, de guitare jazz dans le hard.
Oui, non, ça marche pas.
Ça marche pas terrible, quoi.
Ça part un peu dans tous les sens.
Et il y a des musiciens qui t'ont donné envie, de par la sonorité de leurs instruments, de la façon dont ils en jouent, de te faire tes propres créations?
Oui, alors ça, c'est venu... j'étais quand même... j'étais ado, hein. J'avais quoi? J'avais 14, 15 ans, et puis je démontais mes guitares, je les cassais pas, hein. Mais bon, je veux dire, ça va. Un tournevis, c'est pas très très compliqué, quoi, et puis... c'est pas un piano non plus qu'il va falloir raccorder à chaque fois qu'on se déplace ou un truc comme ça. Une guitare, déjà, il faut savoir l'accorder. Alors, moi, je vois beaucoup de jeunes guitaristes, machin, accordeur. Accordez-la, apprenez un peu. Alors, écoutez, voilà. Hein, l'oreille, c'est pas mal. Hein. Donc, voilà. Ou alors, pire encore, des jeunes guitaristes débutants ou... avec un ou deux ans de guitare, qui amènent leur guitare au magasin de musique pour... alors là, je vais pas aider les magasins de musique, mais arrêtez. Apprenez à mettre des cordes sur vos guitares, à les changer, à faire la maintenance, nettoyer un petit coup de temps en temps. C'est pas mal, hein. Et puis c'est pas compliqué. Ça coûte pas un rond, ça coûte quoi ? Un jeu de cordes, un peu d'huile de coude, voilà. C'est facile. Et puis, quand on aime un instrument, quand on passe du temps avec, eh ben, faut s'en occuper soi-même. C'est la meilleure manière de régler. Et puis, un coutelier ou quelqu'un, un boucher, lui, il est là pour couper la viande. Hein. Il n'est pas là pour affûter ses couteaux. Pourtant, il sait affûter ses couteaux. C'est la même chose. Il faut prendre soin un petit peu de son matériel. En même temps, ça permet de comprendre l'instrument, comment il fonctionne, comment il réagit, pourquoi ça résonne, pourquoi il y a une durée de note, pourquoi il y a du sustain, pourquoi il n'y en a pas, qu'est-ce qui cloche, pourquoi elle est fausse. Et voilà, ça c'est pas mal. Donc moi, je m'amusais à faire ça sur mes petites guitares électriques. Si une fois, j'ai coupé une guitare en deux pour voir comment c'est foutu, bon, enfin, je m'en suis un peu voulu parce que je me suis dit « Ah ben, c'est trop tard, maintenant c'est mort, ça n'a plus marché. » J'arriverai pas à la recoller. Donc voilà, et puis petit à petit, je me suis mis à... J'ai essayé un peu d'acheter du bois, autre chose que du bois de palette. Hein. Et puis je suis parti avec une râpe, une scie égoïne, un compas. Ouais, je savais ce que c'était pour l'école, mais je savais pas que j'avais pas fait le lien entre l'école et... Bref, voilà quoi. Donc je suis parti avec trois fois rien, à fabriquer mes propres outils, limite, pour le début. Et puis... une première petite guitare électrique, le manche il a vrillé de suite, ça a pas marché parce que le bois c'était pas le bon, et puis j'avais pas coupé comme il fallait, et ci et là. Mais bon, enfin, en tout cas ça ressemblait à une guitare, et puis il y avait des frettes et ça aurait pu marcher. Elle a pas marché, je suis allé la montrer à des luthiers, à l'époque j'étais sur Marseille, ils m'ont dit « Ouh là là, non, j'ai pas le temps ». Et puis du coup, je fais « Bon, c'est pas grave, moi j'ai le temps, alors je vais recommencer et puis je reviendrai ». Et puis de fil en aiguille, j'ai vu de très belles choses, j'ai fait de très très belles rencontres, j'ai rencontré des luthiers absolument géniaux, aussi bien dans le travail que dans la vie et humainement. Enfin, c'est devenu, c'est des gens qui ont énormément compté pour moi à cette époque-là et qui continuent de compter, avec qui, j'ai toujours un immense respect pour ces deux luthiers qui m'ont énormément aidé, ils m'ont pas embauché, ils m'ont montré comment faire un violon. Un était fabricant de contrebasse spécialisé contrebasse. Après il réparait violon, violoncelle, contrebasse. C'était un luthier qui avait fait ses formations et son apprentissage à Crémone. Donc c'est un vrai luthier. C'est pas il y a pas de machine, il y a pas de, on fait tout à la main quoi. Et un autre luthier, donc il se partageait ce magnifique atelier qui était tout bois avec une déco type années 30. Il y avait une ambiance. Un truc quand on rentrait là-dedans, c'était ouf. Moi je me sentais bien, ça sentait bon, c'était joli, c'était les années 30, c'était magnifique et c'était zen. Il y avait une petite musique classique derrière, tranquille, ou éventuellement de temps en temps ça partait un petit peu sur des blagues à la radio, tantôt on se marrait et tout. Et donc l'autre luthier, lui est spécialisé dans les fabrications de guitares archtop jazz, et il fait un boulot exceptionnel, c'est magnifique ce qu'il fait, et donc j'ai vu ses guitares, j'ai fait waouh, c'est les plus belles guitares que j'ai jamais vues. Je veux dire, j'étais à fond dans la guitare électrique, j'étais à fond les guitares de, je sais pas, enfin. Et là, j'ai vu ces guitares-là, type Gibson L5, D'Angelico New Yorkers. Vraiment, j'ai fait, mais là, il y a un boulot. C'est très proche de la lutherie du violon, puisque c'est des tables et des fonds. Donc le dessus et le fond de la guitare, le dessous, sont des pièces sculptées dans la masse pour obtenir le bombé. Le fonctionnement, ça marche par pression des cordes et pas par tension des cordes sur la table. C'est un autre type de mécanisme acoustique. C'est les mêmes bois utilisés sur les violons, donc de l'Hera blondée, de l'Épicéa pour la table, de l'ébène pour la touche, donc exclusivement, enfin quasiment des bois européens à part l'ébène. Après, il y a l'habillage, les vernis, la marqueterie, les filets. Je me suis dit, mais il n'y a pas ça sur les autres guitares. Il n'y a pas autant de travail, quoi. Et c'est... voilà, donc... moi, par goût, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. C'est ça, c'est ces guitares-là, quoi. Donc, bon, ben... voilà, je fabrique des guitares de jazz depuis maintenant presque 10 ans. Je ne fais que ça.
Et pour choisir les bois que tu veux utiliser, tu as une technique particulière pour écouter le bois? S'il y a une conductivité par rapport à une montre ou quoi que ce soit, tu te mets une dizaine de mètres du tronc, savoir si tu entends bien le...
Non,
tu fais pas ça, non.
Non, ça c'est un autre métier, ça. Ça c'est... alors ça, bon, voilà, il y a des fournisseurs en bois de lutherie qui sont spécialisés là-dedans. Bon, après, c'est une confiance. Bon, le bois, il est sec, il a 10 ans de séchage, dans de bonnes conditions, il est bien dressé. Il y a des différents types de qualité de bois. Eux, ils coupent le bois dans la forêt. Donc, eux savent exactement comment s'y prendre. Ils respectent. Voilà, c'est des gens qui respectent encore. Il y a un travail quand même avec la nature. Là, on est avec la nature. C'est-à-dire que l'arbre, il est sur pied. On va travailler avec les lunes pour savoir quand le couper. C'est des choses qui sont. Là, on n'est pas à Ikea, quoi. Je veux dire, pardon pour Ikea, mais je veux dire, c'est pas du bois, les gars, là. C'est pas du bois Ikea, hein. Non, ça n'existe pas. Donc voilà. Là, ça, c'est des morceaux de bois. Ça coûte bien plus cher. Ça coûte 10, 15, 20 fois plus cher que du bois normal. Pour faire une guitare, il y en a à peu près pour aller entre 700 et 1000 euros de bois.
En allant plus loin, tu parles du respect de la nature. L'arbre dominé, l'arbre dominant, ils en s'en servent aussi pour couper le... Non ?
Je connais pas. Non. Je sais pas. Je connais pas.
L'arbre dominé, c'est celui qui voit le moins de soleil.
D'accord.
Qui aura peut-être moins de qualité acoustique que l'arbre dominant, non ?
Non. Sûrement. Dans tous les cas, il faut une pousse lente. Donc, au plus il est lent, au plus le fil du bois est serré... Au plus il pousse vite, au plus les cercles d'âge vont être espacés. Donc, et c'est pas du tout ce qu'on cherche, justement.
Et pour ça, moins il y a d'eau, meilleur c'est pour le bois.
Il y a tout un tas de conditions climatiques, il y a tout un tas de trucs, quoi. Je veux dire, par exemple, bon, il y a tout un tas de légendes. Bon, je vais partir un petit peu sur des trucs un peu lointains, mais... par rapport à Stradivari, Amati, Guarneri, tout ça. Donc ça, c'est des luthiers italiens, ça a 400-500 ans. Bon, c'est des grandes familles qui se sont passées un peu le métier dans la famille, et ça a suivi. Il y a eu plusieurs... c'est des dynasties, quasiment, quoi. Et ils utilisaient des bois. Bon, sûrement, on ne retrouvera plus la qualité du bois. Mais bon, je veux dire, après, c'est très, très aléatoire. C'est quasi impossible de savoir exactement sur quoi on va tomber entre le moment où on va prendre le bois, l'essence de bois, commencer à la sculpter pour faire une table, tout ça. Alors on va mesurer les épaisseurs de bois partout, la taille. Mais après, il y a la matière première. Et la matière première, elle évolue avec le temps. Il y a 200 ans, c'était pas la même qu'il y a 400 ans. Et aujourd'hui, on en est à autre chose. Et on fait avec, ça évolue aussi. Aujourd'hui, un violon moderne sonnera mieux que, par exemple, un Stradivari. Mais quand on veut un Stradivari, on veut pas forcément le son. On veut la signature. C'est une pièce de collection, c'est une pièce historique. Ça n'a plus de prix.
Comme les bouteilles de vin qui ont plus de 50, 150 ans, et jamais les gens la
boira. Oui, voilà, parce que si on l'ouvre, aïe aïe aïe, quoi, massacre, hein, c'est bouchonné, il y a eu un problème, ça a mal vieilli, évidemment. Mais c'est l'étiquette, c'est le truc qui est là. Donc bon, après, voilà, ça c'est encore un autre truc. Faut pas confondre avec le snobisme de vouloir s'acheter à tout prix quelque chose de valeur sous prétexte que y a une croix dessus et que la croix elle a été faite par finalement on ne sait pas. Non, voilà, là c'est des pièces historiques. Selon moi, ça devrait même plus être en vente.
Et les instruments avec lesquels tu sculptes tes guitares, c'est des instruments bédane, tu prends tous des instruments plats, des
gouges
bédane.
Gouges, ciseaux, cuillères, de différentes formes au niveau des gouges. Des scies japonaises, des scies à main, très peu de machines. J'aime pas trop ça, mais bon, enfin, la machine, c'est pas, voilà, j'aime bien le travail manuel. Il y a très peu d'opérations où j'utilise des défonceuses ou des petites toupies portatives. Couper le bois, ouais, c'est sûr que pour couper 5 cm de bois sur toute une longueur, bon, je vais prendre une scie à ruban et c'est réglé. Mais après, c'est rabot, c'est une varlope à la main. Voilà, j'ai pas de dégo, j'ai pas de combiné machine, j'ai pas de machine numérique. Merci pour ceux qui m'entendent et qui sont luthiers, je n'en veux pas. Moi, ça me met un peu en colère. Je suis peut-être un petit peu réac, mais j'essaie d'être luthier. Je vois pas pourquoi je ferais des guitares de la même manière que, pour pas citer de marque, les grandes marques industrielles.
À la chaîne, quoi.
Ça m'intéresse pas. Là, à l'heure actuelle, il y a des luthiers qui ont des machines numériques.
Alors, on programme et puis ça sort.
On programme, voilà. Le principe de la machine numérique, c'est une toupie, une fraise qui tourne, qui est branchée sur un PC avec un logiciel de dessin, machin. On envoie un bout de bois, on le fixe. La toupie fait le travail toute seule, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de poussière et ça ne m'intéresse absolument pas. Je me suis pris le bec avec quelqu'un, alors oui, évidemment, bien sûr que ça va plus vite, bien sûr que le travail il est parfait parce que c'est une machine qui le fait, mais
il n'y a pas d'âme.
On s'est disputé pour on s'est disputé entre guillemets, c'était une cordiale petite animation mais voilà. Enfin, je sais pas, on ne travaille pas dans la même catégorie, c'est quand même important. Et si on continue d'éduquer le client comme ça, et c'est ce que je lui ai dit, parce que le gars, il me parle de rentabilité, parce que les gens ne peuvent pas mettre beaucoup sur un objet d'artisanat. Mais l'artisanat, moi, dans l'artisanat, c'est pas la définition de « je mets les mains dedans », mais pour moi, c'est presque ça, quoi. Je suis désolé. Et alors à ce moment-là, moi je laisse les industriels d'un côté et je me démarque bien de mon côté en disant mais moi je maîtrise parce que c'est ma main. Et je maîtrise ce que j'ai entre les mains dans la fabrication du vernis. Ah bizarre, j'utilise pas de pistolet, j'utilise pas de cellulosique, de polyuréthane, je fais des vernis à l'alcool, oh, c'est naturel. Ah ouais c'est sûr, j'ai 30 et quelques couches, enfin, tant que c'est pas nickel quoi, à passer. Ben, je vais mettre bien plus de temps. Effectivement, là, on parle de rentabilité. Mais en même temps, là, je parle de ma santé, qui n'en prend pas un coup. La santé du voisin, parce que c'est bien beau d'avoir un compresseur, un pistolet et un extracteur et un masque. Mais les vapeurs, elles vont où ? Un extracteur, c'est pour prendre dans une pièce et puis pour envoyer dehors. Merci, mais non, sans moi. L'école synthétique, sans moi aussi, quoi. Ça m'intéresse pas, ça se décolle pas, c'est dégueulasse. Voilà. Alors pardon, oui, j'ai dit c'est dégueulasse. On dit j'aime pas, on dit pas c'est moche, c'est pas beau. On dit j'aime pas. Eh ben si, voilà, c'est fait. Pardon, c'est ma petite erreur. Je trouve ça dégueulasse. Voilà. Donc voilà, moi c'est l'école naturelle. Je c'est de la cuisine et c'est ça qui m'intéresse. Et si j'essaie d'être luthier, je dis encore une fois j'essaie de parce que. Parce que c'est le travail d'une vie, parce que je ne maîtrise pas complètement mes recettes de vernis. C'est très compliqué quand c'est à passer à la main. Il faut avoir des habitudes d'eux. On ne peut pas le faire au tampon sur une guitare archtop parce qu'il y a des courbes, il y a des F, il y a le manche qui vient surplomber la table d'harmonie. Enfin, c'est galère à faire, mais ça me plaît. C'est pas grave.
Et l'attention que quand tu sers pour assembler tous tes, tes morceaux, quoi. Sur les serres jointes, t'as pas d'indicateur pour savoir si la tension est bonne pour ton bois, pour pas qu'il craque, de pas le casser.
Non, ben en fait ça c'est des serres jointes en bois. Bois contre bois, on sent la force. Fer contre bois, si on serre jointe contre du bois, on blesse le bois, on le marque, parce qu'on ne sent pas la force qui est exercée, parce que c'est du métal qui va serrer. Donc on a pas du tout le... y a une sensation. Et puis on protège aussi, on plaque pas, on a toujours des petites cales avec des petits morceaux de cuir qu'on a récupérés, un peu épais, genre du taureau ou de la vachette. Ça protège très bien et on serre par-dessus, quoi, avec une petite cale en bois en plus. Bon, voilà, et puis on y va, on gère la tension. Il est là le truc aussi, enfin, c'est à la main. On touche les choses, on les ressent et il faut sentir quelque chose. Si on ne sent rien, ben, il faut s'entraîner à sentir quelque chose. Il est là le travail manuel, quoi.
Il y a des gens qui ont un sens plus développé, que ce soit le nez, l'oreille.
Oui, aussi.
Toi, t'as l'oreille et le toucher. Tu aurais plutôt,
bah,
tu préfères nuancer, ouais.
Je sais pas, j'aurais peut-être ça. Alors ouais, mais ça se travaille aussi. Il y a, je sais pas moi, il y a 10 ans en arrière, on m'aurait dit tiens, vas-y, je te joue ça. Il faut que tu me dises si c'est une tonique, une tierce, une sixte. Ouais, je sais pas. Vas-y, fais voir. Non, j'aurais jamais trouvé. Ben, j'ai travaillé dessus et j'ai pris mes propres repères mémotechniques et puis maintenant je les entends bien et je sais dire si c'est une sixte, où est la tonique, quand j'entends un truc sans avoir d'instrument sur les genoux ou un clavier piano devant, quoi. C'est un entraînement, c'est des sens qui se développent. Il y a des gens doués, mais sans travail, sans pratiquer le truc, on accède à rien finalement.
On revient à ce que tu disais au départ. Hein.
Moi j'ai entendu des grosses conneries du genre le jour où Jimi Hendrix il a pris une guitare, il savait jouer.
Dans le ventre de sa mère alors.
Rire. Ah, ces gens-là, mais ils me font rire. Je trouve ça super rigolo, quoi. Non, il est allé plus vite que la plupart des... Peut-être. Ou alors, qu'est-ce qu'on... On n'en sait rien. Si ça se trouve, il a mis 10 ans avant d'avoir... Enfin, j'exagère, mais si ça se trouve, il a mis un temps fou pour arriver à faire une gamme. Et puis le jour où il est arrivé, il a eu un déclic et il s'est dit « Ah ouais, d'accord, mais c'est bon. Là, ok. Bah, là, je bosse alors. » Et voilà, c'est tout. Donc, faut pas tout mélanger. De toute façon, je trouve qu'on nous éduque un peu comme ça. À ne pas avoir confiance en soi, à ne pas faire les choses nous-mêmes, à aller vers la facilité, vers des choses, à ne pas prendre nos responsabilités. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, ça se ressent dans la culture et puis dans les autres domaines de la vie, tous, quoi. Qui peut, à l'heure actuelle, c'est une question politique un peu, hein, et sociale, mais qui peut se vanter d'être à sa place? Je sais pas.
Bonne question. Ouais.
C'est une grande responsabilité que d'aller travailler n'importe où. Hein. Mais si on n'aime pas le boulot, on va mal le faire. Résultat, c'est ce qui se passe. Hein. Je suis désolé, on consomme, on bouffe de la merde. On veut une guitare. Alors voilà, là aussi, de l'engueulade que j'ai vue plus ou moins entre guillemets avec ce luthier, c'est rigolo. On parle de rentabilité, et moi je lui parle de rééduquer la clientèle. Et je lui ai sorti une phrase, ça m'a beaucoup fait rire, je lui avais dit, on va dire que le client, oui, c'est le roi, mais c'est aussi un petit enfant capricieux qu'il faut un petit peu de temps en temps dire, attends, tu veux un truc bien? Bah tiens, attends mon grand.
Mais tout va vite maintenant.
C'est un... oui, maintenant, quelqu'un veut une guitare, moi, je vous la fais sur mesure. Ça vous prend, déjà, il y a 3 bons mois de fabrication avec les temps de séchage, tout ça, machin, si j'ai pas d'autres guitares à fabriquer. Donc, faut compter bien 6-8 mois. Ah ouais, mais moi, je la veux maintenant. Oh. Vous rendez compte, monsieur le luthier, si je vais dans le magasin de musique, je l'ai de suite. Tu sais quoi, mais vas-y. Ça fera la différence. Voilà. Et tant pis. Bah oui, c'est sûr, je m'assois sur ma paye, sur... je veux dire, on ne peut pas acheter tout et n'importe quoi. N'importe comment, surtout.
Et tout le temps.
Et tout le temps. Merci. Voilà, enfin, c'est un engagement. Moi, je pense, voilà, moi, je suis content, je suis à ma place. Je gagne pas très très bien ma vie, en ce moment, c'est un peu la galère d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, je suis à ma place. C'est comme ça, c'est la vie. Demain, ça ira mieux, ou au mois de septembre, quand mes cours reprendront, ce sera bien. Voilà, je serai content parce que là, je bosse pour. Je bosse sur mes guitares, j'espère remonter mon truc. Je bosse aussi sur de la musique écrite, donc c'est compliqué. Faut pas se lâcher et improviser tout le temps. Faut revenir à son thème, revenir à ses habitudes et que le morceau il soit pareil d'une répète à l'autre. Voilà, et c'est très très bien. Mais je suis content parce que justement je suis à ma place et que c'est. Je trouve ça irresponsable de faire. Oui, bien sûr, il faut bouffer, mais je suis désolé, faut pas tout le temps faire passer le portefeuille avant ses propres convictions.
Ouais, enfin, actuellement, c'est toujours la course pour tout le monde, quoi. Ils essayent toujours de. Ça fait vendre, hein, tout ça. Hein,
Ah, c'est pour ça que je dis, ils nous éduquent comme ça. Ils nous éduquent, on oublie, hein, là c'est hors contexte musique, mais ça se tient. On ne sait plus qui on est. On ne sait plus à quoi on doit ressembler. On doit ressembler à des espèces de pseudo-stars bodybuildés ou surblonds à la télé. Donc il faut que. Voilà, il faut le tatouage comme machin qui joue au foot. Vous avez vu, hein, je ne cite pas de nom, hein, c'est
La
bien. Hein.
coupe de cheveux qui va avec.
La coupe de cheveux qui va avec. Ouais, je sais pas. Et la personnalité, elle est où là-dedans?
Au vestiaire.
Le libre arbitre, le choix de vivre ce qu'on a envie de vivre. Voilà, moi je suis né à Marseille, j'ai fait un petit peu un petit tour de quelques villes assez intéressantes et tout où j'ai vécu. Sorti de là, j'ai fait bon, ok, maintenant je vais aller m'installer à la campagne, hein, parce que là, voilà. Et ça, c'est ma pierre à moi, c'est mon édifice à moi. Je vais pas prendre un micro et puis gueuler de la politique. Ah si, je pourrais le faire là maintenant, mais je vais pas le faire. Donc, mais c'est, j'ai quand même un pouvoir de faire quelque chose de bien dans ma vie et de laisser une marque, quelque chose de joli, dans la façon, pas dans le fond, pas dans la forme. Et ça, c'est intéressant. Et ça m'intéresse.
La grosse nuance, le fond et la forme.
Oui.
Ah oui.
Alors souvent, je mets pas la forme, moi, parce que j'ai un putain de caractère. Mais bon. C'est pas grave, tant pis. J'ai pas. Voilà, le fond.
Et justement, dans le fond, il y a une guitare qui est là.
Dans le fond. Ah oui.
Pour nos auditeurs de Fréquence Mistral,
Essayez.
Tu vas essayer. Depuis, mais alors, il n'y a pas de choc thermique aujourd'hui. C'est bon, elle ne risque pas d'être désaccordée.
Non, effectivement,
théoriquement.
non, malgré la chaleur. On va quand même vérifier. Hein? Je vais pas aller l'amener dans un magasin de musique pour la faire accorder.
Changera les cordes.
A l'air d'aller, à peu près. Donc je sais pas trop. Je vais un petit peu improviser. Il y a des plutôt que de faire un morceau ou d'improviser, je sais pas. Tout à l'heure je parlais de couleurs là. Il y a des tas de trucs à dire, hein, parce qu'en ce moment il y a aussi le festival de
Les James
guitare.
Live. Ouais.
Voilà. Alors ça c'est un festival qui est basé sur et autour de la guitare, avec d'excellents musiciens, d'excellents guitaristes. Qui viennent présenter leur manière de jouer sur des masterclass, qui font monter des gens qui participent aux masterclass de la journée pour jouer sur scène. Je veux dire, il y a quand même des gens, des très grosses pointures qui sont venus jouer les années précédentes et tout. Enfin, c'est bien, c'est intéressant. Donc, il y a quand même un monde autour de la guitare, il y a des tas de trucs. Donc, si là, il y a des gens qui sont un peu intéressés par ce que je raconte, la guitare, et voire d'approfondir. Là, tout à l'heure, on parlait de couleurs avec Jimi Hendrix, machin. Mais quand il joue des trucs, ça, c'est voilà, là, là, j'entends des couleurs. Et là, je joue en majeur. Ça ressemble un peu à The Wind Carries Mary, je crois. Ouais. Enfin, ce genre de gamme, c'est des gammes pentatoniques. Et elle est majeure, et du coup, en rajoutant... J'aime bien ce genre de couleur, je trouve ça... Voilà, ça, c'est un peu ce que j'ai essayé de décrire. Bon, avec des mots, c'est un peu moins évident. Des fois, il faut un peu l'entendre. Mais voilà, je trouve ça très, très coloré. C'est vraiment de l'arc-en-ciel, pour moi. Je sais pas comment dire... moi je suis musicien hein. Donc les mots des fois ça m'échappe un peu, voilà, c'est de l'émotion dans les oreilles et, des petits trucs ou ce genre d'accord Bon, j'aime beaucoup les couleurs là pour les guitaristes, j'aime beaucoup les sixtes et les neuvièmes. Donc tonique, sixte, neuvième. Avec une quinte sur l'octave. De trucs, enfin voilà, ça c'est des jeux qui me parlent beaucoup. Quoi dire, il y en a tellement de trucs à dire. Et j'aime bien ça, j'aime bien les... Alors encore un petit peu de technique, tout ça, enfin pour les guitaristes. Les jeux, moi je préfère un peu les jeux majeurs, voilà, sonorité un petit peu majeure, donc avec les modes lydiens, mixolydiens, mode lydien très très riche, en carte plus. Ça c'est des jeux voilà, qui me parlent beaucoup, qui sont très... sur un mi, voilà la carte plus, bon après voilà, enfin c'est un peu le système de théorie un petit peu moderne, c'est-à-dire de plus voir uniquement les notes, de les remplacer par les degrés. Bon, ça c'est un apprentissage, c'est une école, mais c'est je trouve ça beaucoup plus avantageux parce qu'après on est un peu avantagé par rapport à n'importe quelle tonalité. On voit les degrés plutôt que les notes et je trouve ça beaucoup plus simple parce que c'est des formules après qu'il faut apprendre plus ou moins par cœur, aussi bien les avoir en tête que au bout des doigts, j'ai envie de dire. Et bon, enfin, je fonctionne comme ça avec mes élèves et jusqu'à présent, les résultats sont pas si mal que ça. Voilà, enfin, y a, voilà. Et même dans Hendrix, tiens, j'étais en train de en jouant ça là.
Le Castle des trucs, oui.
Voilà. Rien que ça, déjà, la sonorité, on dirait un truc, on dirait une sitar. Mmh. ça, je trouve ça complètement exceptionnel. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait faire un jeu avec des auditeurs, s'ils ont envie d'appeler, donner la définition du mot jazz, ce que ça veut dire. Mais moi, quand je vois un noir américain qui chope sa guitare électrique et puis qui fait un truc qui ressemble à la musique indienne dans les années 70, moi, je dis, oh, quand même, c'est génial. Alors, en plus de la couleur, là, il y a quelque chose. Enfin, c'est... Voilà, pour moi, c'est des choses qui ont changé un peu le cours de tout ce qu'on a pu, enfin tout ce qui aurait pu être fait et qui est pas sorti. Enfin voilà, il a fallu des gens comme ça qui ont inventé plus que de la musique. Ils ont inventé une culture musicale. Ils ont inventé un style, un mouvement. C'est des icônes et faut faire avec. C'est les standards de la musique. Il faut voilà, je pense qu'il faut apprendre ce genre de truc quoi. Voilà, ça, ne serait-ce qu'un blues comme ça, c'est un blues classique en 12 mesures. Si on reprend Red House, donc normalement on est en si bémol. Pas la voix parce que
du tout. Ni toi ni moi.
Non.
Mais dans les accords que tu faisais, comme c'était assez matiné de jazz aussi, hein, dans ce que tu viens de jouer.
Alors les accords, je sais pas. C'est... Oui, parce que c'est des accords enrichis. Mais un accord enrichi, c'est pas forcément fait que pour le jazz. Tiens, il y a un morceau de Steve Vai. Sur son dernier album qui s'appelle, je crois que c'est le dernier. Parce que j'ai du mal des fois, moi, avec la mémoire et moi, des fois. The Story of Light, et le morceau, il s'appelle The Moon and I. Alors, c'est un morceau, franchement, avec deux guitares flamenco, ce serait aussi magnifique que ce qu'il a fait lui. Parce que c'est, on dirait du flamenco, on dirait Aldi Meola qui joue, avec Paco de Lucía. Voilà, c'est fabuleux. Et en même temps, c'est des accords enrichis. Alors, il y a des Do 6-9, il y a des trucs comme ça. Il y a toujours ce bourdon, corde Si et Mi, la chanterelle. Mineur 7, et il y a toujours le Si et le Mi sur l'accord. Donc il y a la couleur mineur 7, tonique 7 bémol, tierce bémol, ok. On a éliminé la quinte, voilà, pour cet accord il ne sert pas à grand chose pour l'instant. Et on a rajouté un Si, un Mi, donc une quarte et un 7 bémol. Voilà, mais sur le deuxième octave. Donc ça c'est. Hop, et après on tombe sur le Mi mineur 9. Et on a encore la même couleur derrière. Voilà, et là on parle de couleur une fois de plus. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même des termes évidemment qui ressortent. Bon, ça c'est un terme dans le langage des musiciens, couleur, j'ai rien inventé et ça m'est pas tombé dessus aujourd'hui non plus, ni quand j'ai vu le film d'Hendrix. Mais voilà, il y a des trucs qui me touchent comme ce genre de phrase. Couleur, c'est un mot qui est accessible. Quand on entend ça, c'est plein de couleurs, moi je trouve. Thank you. c'est un type de jeu, mais voilà, je trouve ça assez, assez intéressant, très très bien fait, réfléchi. Sur ce morceau-là, si on fait une analyse harmonique, il y a tout qui colle, c'est impeccable, quoi. Il a simplement suivi une recette musicale qui fonctionne. Il a suivi l'harmonie à la lettre. Il n'y a qu'à un moment donné une modulation à faire sur la dièse neuvième qui ne fait pas partie du coup de la gamme, où il faut un petit peu moduler. Enfin voilà, c'est bien construit, c'est pour moi c'est des trucs, c'est des cas d'école, quoi. C'est étudié comme le real book ou ce genre de trucs. Hein.
Tout à l'heure, tu parlais de cuisine quand tu faisais tes guitares. Dans la cuisine, on dit toujours que c'est l'oignon qui fait la sauce. Pour la musique, qu'est-ce que c'est qui fait le liant ?
C'est pas tes oignons.
Ouais.
Bon, hein. Le liant, ben, je sais pas. La lutherie. Ouais, il y a un peu de cuisine, il y a un peu de. Chacun suit la même recette, mais chacun la lit différemment. Donc il y a un peu de ça. La lutherie. Moi, j'ai souvent comparé ça à de la couture. Parce que mon père était couturier quand il travaillait, il avait son atelier, il était tailleur, donc il faisait des costumes, il faisait des blousons à l'époque, quand c'était la grande mode du cuir, tout ça, on parle pas de fourrure non plus. Cuir, il y a les animaux, oui, c'est sûr, mais bon, enfin, c'est... Voilà, c'est comme ça, hein. on s'est habillé, il n'y a pas eu toujours que le tissu et ce genre de truc. Pas trop de remords par rapport à ça non plus. Enfin, faut vivre aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut vivre. Couture, moi j'ai toujours vu des patrons, des plans, des gabarits, des grandes tables de travail où on pouvait faire le tour pour mieux travailler, mieux circuler plutôt que de bouger la pièce. Et quand j'ai commencé à faire mes premières guitares archtop jazz, j'avais besoin de gabarits et j'ai récupéré tous les vieux patrons en carton qu'ils avaient, qui correspondaient à telle partie du vêtement ou telle partie du truc et tout. Et puis un jour j'ai montré à mon père comment je travaillais, et puis j'étais là, je disais, mais tu vois, regarde, tu reconnais pas cette matière là, ce carton là? Il me dit, mais si, mais c'était mes gabarits, ça, de couture et tout. Bon, il m'en a pas voulu, hein, il était à la retraite et tout, et pas de soucis, hein, j'ai pas piqué ses outils et tout, mais voilà quoi, c'est un peu de la couture. On prend la matière première, déjà on la traite bien. Parce que c'est de l'artisanat, on a du respect pour, et on se soucie aussi de la traçabilité, la provenance des matériaux qu'on utilise. C'est ce qui fait la différence aussi avec les grandes marques. Donc ça, c'est le travail manuel, quoi. Il est là, le truc. Et moi, j'ai toujours baigné là-dedans. Et je voyais, voilà, mon père... qui était artisan, qui faisait de la couture, qui faisait ses magnifiques blousons et tout, quelque part, moi, c'est un parallèle. Je fais la même chose, c'est-à-dire je découpe dans de la matière première à l'aide de gabarits, je vérifie que ça fonctionne, et puis si ça fonctionne au niveau de l'assemblage, c'est bon, je colle. Et puis voilà, et le truc, il est là. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un peu la même chose. C'est pas si éloigné que ça, quoi. Après, dans la lutherie, il y a de la sculpture, il y a de la marqueterie, il y a du vernis, il y a de la géométrie, il y a de la musique, il y a des maths. Il y a tout un tas de disciplines à maîtriser, mais c'est dans la couture aussi, hein, il y a de la. Il faut prendre un compas, il faut prendre des mesures, il faut prendre des réglés, il faut prendre des cutters, des scalpels.
L'avantage, c'est que tu travailles sur un produit un petit peu plus noble que enfin, le cuir. Je ne sais pas si on peut à proprement parler d'un produit noble par rapport à des essences de bois qui ont comme un veinage particulier.
Le cuir, c'est beau.
Ouais.
le cuir. Bon, après, faut pas confondre. Attention, je suis pas en train d'attaquer ni de dire allez-y, chopez la première vache, butez-la et chopez la peau et faites-vous votre fourrure. Hein, mais la matière noble, elle est là. Du plastique, c'est pas une matière noble. Là, on est sur un matériau qui est naturel. La noblesse, elle est là, je pense. Que ce soit dans du bois, c'est noble. Quel que soit le bois, après du bois de palette, c'est du bois de palette. C'est du pain, c'est fait pour faire des palettes, c'est pas fait pour faire des guitares. Comme de l'érable ondé, ça me ferait de la peine de voir de l'érable ondé sur des palettes. Ou alors, moi j'achète toutes les palettes de la région, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, en même temps, j'aurais pas les moyens. Mais bon, bref. Mais voilà, le matériau noble, il est là. Et j'espère, encore une fois, ne pas offenser ceux qui n'aiment pas qu'on tue des animaux, tout ça. J'aime pas ça non plus. Hein. Je veux dire, bon, après, voilà, je sais d'où on vient. Je sais que normalement, à la base, on ne mangeait pas de viande et tout ça. Mais bon, ben, je veux dire, on a évolué et c'est comme ça. Et puis moi, j'aime ça. Et puis tant pis. Voilà. Bon, voilà. Après, je peux pas tuer un animal non plus. Bon. Mais voilà, sur la noblesse du matériau, pour moi, un matériau noble, c'est la matière première, c'est la matière naturelle. Et l'artisanat, c'est l'art de transformer la matière première, c'est tout, quelle qu'elle soit. Et c'est ça qui est noble, aussi bien dans la matière que dans la façon, dans le geste. D'aller chercher quelque chose de naturel, parce que sinon, je veux dire, on peut prendre du sky, hein. Bouf, c'est pas forcément très très noble. Là, on a la notion de noblesse qui disparaît du coup. Donc voilà, après, à moi à savoir d'où ma peau vient, si je suis couturier ou si je suis luthier un jour peut-être. Si je suis luthier, à moi de voir, par exemple, si le bois que j'ai acheté très très cher sur le truc là-bas, dans le nord de la France, en réalité, ils ne viennent pas de je ne sais pas où, ben maintenant il n'y a plus de forêt, quoi. Parce que ça ne m'intéresse pas non plus.
C'est pour ça que tu parles de la confiance que tu parles avec tes fournisseurs, elle est là aussi.
Ah ben oui, oui, il y a ça. Ça, il faut quand même. Il y a quand même un enjeu et une responsabilité quand on a le privilège et le pouvoir de gérer son propre truc. Faut prendre ses responsabilités. Faut pas mettre les mains n'importe où. Faut savoir ce qu'on vend aux gens et comment on le fabrique. Et faut que les gens, faut les éduquer. Parce que quoi, ils peuvent pas attendre 6 mois pour avoir une guitare. Sérieusement. La guitare, elle va leur durer toute leur vie. Ce sera la plus belle jusqu'à ce qu'ils en aient une autre d'un autre luthier. C'est pas voilà, c'est pas le monopole non plus. Mais c'est un instrument, c'est vivant. Ça n'a absolument rien à voir. Quand je branche là la petite archtop avec laquelle j'ai joué tout à l'heure, je la branche sur un ampli, elle réagit comme aucune autre guitare de série que j'ai chez moi et que j'aime bien hein, aussi. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est vivant. Je laisse mon doigt sur la note, je la fais vibrer. La note va continuer de sonner jusqu'à ce que ça parte en larsen, mais en gardant la même note. Sur une guitare électrique, il faut des effets pour faire ça.
Et non, faut faire le sustain, oui.
Celle-là, c'est pas un larsen. C'est pas du sustain non plus. C'est un truc qui se passe. Alors, il y a des endroits où ça marche, des endroits où ça marche moins bien. Mais quasiment partout, c'est incroyable. Une clarté.
Et à ce propos, l'acoustique d'une pièce par rapport à la sonorité d'une guitare, ça joue pour faire durer justement une note par rapport à une autre pièce qui est plus terne, plus mate.
Ça dépend comment. Enfin, ce qu'il y a sur les murs, ça c'est toujours pareil. Si les murs sont tendus, même s'il n'y a rien hein, dans une pièce, il peut y avoir des pièces. Ou si une pièce par exemple est meublée, mais le béton est tendu, enfin voilà, on tape des mains, ça résonne, ça a un bruit, on dirait qu'on se croirait dans une salle d'eau, quoi. Donc il y a des phénomènes acoustiques comme ça. Bon, ça, il y a des acousticiens qui viennent, C'est leur métier, ils ont fait des études, c'est des formules de maths, j'en ai vu quelques-unes pendant que j'étudiais, et puis bon, bah, je suis, ouais, ok. Ah, costaud quand même, hein. Et puis sinon, il y a des appareils de mesure directement, plutôt que de faire des calculs. Bon, voilà, on chope les zones de creux dans une pièce, et c'est en fonction de d'où vient le son, comment il est renvoyé en fonction des matériaux qu'il y a, par exemple, sur les murs, comment il se réfléchit, comment il est absorbé. C'est un peu comme une balle de ping-pong.
Et ça, pour ta guitare, quand tu la fabriques, quand tu utilises tes instruments comme le gouge ou bétane ou ce que tu veux, quoi, tes cuillères, c'est pareil, tu cherches là où il y a la perfection, entre guillemets, là où ça se sonne dans l'oreille le mieux, que tu vas creuser un petit peu plus, tu écoutes avec un diapason, tu fais comment tu...
Non, il y a des recettes, et après il y a quelque chose de logique. C'est un peu difficile à expliquer parce que faudrait des dessins et, ou voir directement comment ça fonctionne, mais bon, vu que c'est vu que c'est des instruments qui fonctionnent par pression au niveau des cordes et pas par tension comme la guitare classique ou la guitare folk, c'est-à-dire que ça tire pas sur la table. Du coup, on peut faire au niveau des pieds du chevalet une certaine épaisseur. Et dès qu'on sort d'un périmètre autour de ce chevalet-là, faire un petit peu plus fin pour permettre un écrasement de la table, par exemple. Bon, mais ça, c'est des recettes. C'est un violon, ça fonctionne pareil. C'est simplement de la logique et du bon sens. Et c'est des essais. Donc après, un luthier, il va dire, bon, ben voilà, ta table, tu pars, elle fait 5 d'épaisseur, 5 mm. Donc il faut sculpter une carapace, un peu comme une carapace de tortue, quoi, en gros, quoi, en bois, qui va faire 5 mm d'épaisseur partout. On découpe les ouïes, et à partir de là, on va affiner certaines parties pour la propagation du son, pour la souplesse de la table, pour... après c'est des petites recettes techniques, c'est des habitudes de travail. Des fois même après on le fait, on sait ce qu'on fait, on réfléchit plus, on n'a plus qu'à faire, on mesure, on vérifie avec un compas d'épaisseur et puis voilà quoi. Mais bon, enfin c'est voilà, entre la fabrication des instruments, entre jouer, entre enseigner la guitare et la théorie musicale. Voilà, c'est des trucs, c'est difficile de faire la part des choses pour moi, mais c'est un métier de passion. Pour moi, c'est lié, c'est indissociable.
Et la passion s'entend.
Ben, ça fait plaisir.
Ouais, ouais.
Parce que, en tout cas, je la ressens bien partout. Merci.
Ah, Jean-Michel Discal, je te remercie pour être venu dans nos studios de Fréquence Mistral à Digne. À bientôt.
Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis, merci aux éditeurs de nous avoir écoutés.
Tu as une page Facebook ?
Oui, sûrement. Jean-Michel Liscala, tout simplement. Voilà, merci.
Merci, à bientôt.
Au revoir.